Donc je lis quelques versets. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et il avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'est levée au-dessus de la tente, les enfants d'Israël partaient et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Alors, effectivement, quel drôle de texte pour une prédication. C'est vrai qu'on voit mal ce que veut nous dire une manifestation telle que cette colonne. On se dit que ça concerne simplement le peuple d'Israël à un moment donné de son histoire, hein, et que Dieu a fait vraiment le nécessaire pour permettre à son peuple de le guider dans le désert. Mais on se dit qu'il aurait pu prendre d'autres moyens. Par exemple, il aurait pu utiliser les anges, soit une colombe, ou soit une étoile, ou tout simplement inspirer Moïse et Aaron. Alors, bien sûr, on peut tirer des leçons de chaque manifestation comme ça, extraordinaire, surnaturelle dans la Bible, en disant que effectivement, derrière ces grandes manifestations, ce qu'on appelle aussi les théophanies, c'est-à-dire les moyens où Dieu se montre au peuple, qu'il y a un sens spirituel derrière chaque chose. Alors ce matin, j'aimerais partager une méditation justement sur la symbolique de cette nuée et de cette colonne de feu. Ce miracle de Dieu, c'est un signe que Dieu donne pour conduire son peuple, ça on l'a bien compris, mais cela ne doit pas être un simple souvenir, hein, parce que l'image est forte, mais ça doit rester, si vous voulez, un exemple concret de la puissance de Dieu. Mais surtout, une des leçons que l'on doit tenir, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Cette colonne montre l'omniprésence de Dieu par son image. Mais si on regarde bien un peu tout la pérégrination de cette colonne, Dieu ne se révèle pas tout le temps. Il y a des moments où il est là et d'autres moments où il laisse simplement la colonne, même s'il y a un ange dans cette colonne de nuée et de feu. Mais ça veut dire que l'ange, ce n'est pas Dieu lui-même, c'est une de ses créatures, c'est important. Seulement, Dieu est présent au moment où il parle à Moïse, au-dessus du tabernacle. Et c'est quand même très différent parce qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, Dieu est omniprésent dans notre vie. Hein. Il est dit que nos corps sont le temple du Saint-Esprit, ce qui veut dire que Dieu est en permanence en nous. Alors la question qui se pose, c'est à quoi sert cette colonne? Alors dans l'Ancien Testament, la colonne, je dirais, de feu et de la nuée, c'est la même colonne, hein. Elle a trois fonctions. Elle guide, elle protège et elle révèle. C'est ce que nous allons voir pour le peuple d'Israël et aussi pour nous, l'Église. Alors avant de continuer, essayons de voir de quoi est constituée, qu'est-ce que c'est cette colonne? Alors, on sait que la colonne de nuée pour guider le peuple, elle apparaît juste au moment où le peuple, les Hébreux, le peuple d'Israël, quitte l'Égypte, hein, à partir de Soukhot. Ce qui est dit dans Exode au chapitre 13 et au verset 20, le Seigneur lui-même marchait à leur tête, colonne de nuée le jour pour nous ouvrir la route et colonne de feu la nuit pour les éclairer. Ils pouvaient ainsi marcher jour et nuit, et cette colonne était immense et droite, car on pouvait la voir de très très loin. Alors, le jour, elle était une immense nuée qui protégeait le peuple, si vous voulez, un peu du soleil et puis des Égyptiens. Et la nuit, cette colonne devenait une colonne de feu. Et il fallait surtout, un des pièges, c'était de suivre cette colonne, et ce n'était pas de l'adorer, hein, parce que souvent dans l'Ancien Testament, Dieu prévient qu'à chaque fois qu'il se montre, qu'il choisit un homme ou un buisson, des hommes, il dit « ne m'adorez pas, je suis un envoyé de Dieu, je suis une image de Dieu, ce n'est pas Dieu lui-même ». Alors pourquoi choisir une colonne de nuée? Ben, je dirais que Dieu aime beaucoup cette image. Hein. Il l'utilise 80 fois dans la Bible. C'est marqué « Dieu s'habille en nuée hein. ». Même son fils s'en sert assez souvent on le voit à la transfiguration, on le voit au moment de l'ascension. La nuée est toujours présente et elle sera présente au moment où Jésus viendra rechercher son Église. Quand il viendra l'enlever, il est dit qu'il reviendra dans la nuée. Et cette colonne, donc, elle conduisait le peuple dans le désert, heureusement, parce que vous imaginez Moïse qui devrait chercher son chemin dans cet immense désert. Si il n'avait pas eu cette colonne, le pauvre, il serait mort d'inquiétude. Et déjà qu'il avait pas mal de soucis, donc en plus, il avait bien besoin de cette colonne que Dieu lui a envoyée. Alors cette colonne, elle a tellement marqué les esprits. Et j'ai lu une fois une anecdote, hein, c'est assez particulier. Il y avait un prédicateur américain, alors je pense qu'il n'était pas chrétien. Je pense que certains ont dû en entendre parler. Il s'appelait Frère Branham. Je ne sais pas si c'est certain. Hein? William Branham, oui. Alors, il avait le droit, à chaque fois qu'il prêchait, d'avoir une mini-colonne derrière la tête. C'est une petite colonne de feu, comme ça, au-dessus de la tête lors de ses prédications. Et c'est vrai, il y a des témoignages comme ça, des photos. Je pense que, bon, c'est quelque chose qui est une supercherie. J'en sais rien, mais bon, c'est quelque chose qui est à prendre avec beaucoup de précaution, quoi. Hein. Je vous le dis parce que je vous parle de ça parce que c'est le genre d'idolâtrie qui peut sévir dans certaines églises, hein, même des églises évangéliques, et on pense qu'on peut avoir comme ça des signes un peu miraculeux. On pense qu'en tentant Dieu de cette manière, on va le mettre à l'épreuve et qu'il peut répondre à ce type de prière. Mais malheureusement, on ne tente pas Dieu impunément. Et je m'inscris en faux contre ce type de manifestations surnaturelles hein, qui peuvent être parfois très tendances. Parce que les grandes manifestations dans la Bible sont inscrites dans un temps. Ce sont des signes de révélation et ça commence avec la Genèse et ça finit avec l'Apocalypse. Donc si vous attendez ce type d'enseignement, eh bien, il va falloir revoir votre copie. Dieu est toujours aussi puissant hein, et souverain, et il y aura toujours, bien sûr, des prophéties et des miracles. Mais au sujet des signes, il dit qu'il le montre par le Saint-Esprit grâce à sa parole et il transmet toujours par l'Église. Et pour moi, cette colonne de feu, c'est une parabole biblique qui s'applique à l'Église de plusieurs manières. Alors déjà, la colonne, il est dit qu'elle guide le peuple. Alors, pour commencer, la colonne guide le peuple et elle apparaît donc à Ramsès, à l'est, dans le delta du Nil, et elle se présente continuellement pendant 40 ans, jusqu'au moment où Josué va traverser le Jourdain. Et là, elle s'arrête. Après, c'est l'arche qui va guider le peuple dans la terre promise. Alors, pourquoi une nuée et une colonne de feu? Ben, il fallait que la nuée soit un symbole. C'est un peu le symbole de la fraîcheur, de la protection. C'est le moyen qui est le plus employé par Dieu. Et la nuée, c'est vrai que ça peut apporter de la pluie dans le désert, mais c'est aussi quelque chose qui est immatériel. C'est ce qui représente le mieux Dieu dans la Bible. Alors que la colonne de feu, c'est quelque chose qui était très repris, si vous voulez, à cette époque par les militaires, par les armées, quand ils allaient de nuit pour combattre, il y avait toujours qui a une sorte de flambeau pour guider les troupes. Mais de toute façon, cela n'a pas forcément beaucoup d'importance. Ce qu'il est important de savoir, c'est que cette manifestation est un miracle de Dieu. C'est ce qu'on appelle une théophanie. C'est Dieu qui apparaissait, c'est une image de Dieu pour guider le peuple. Alors, le fait aussi qu'à aucun moment, cette colonne a été absente, ce qui montre que Dieu a toujours était omniprésent, qui n'a jamais abandonné son peuple. À aucun moment, on voit la colonne disparaître. Alors, tout ça, c'est bien beau. Alors, qu'est-ce que je fais de cette image? Je dirais que j'en fais rien. Ce que j'en fais, c'est surtout de tirer les leçons et c'est surtout de glorifier Dieu pour tous les prodiges et la puissance, pour sa fidélité. Car ce Dieu-là est tout puissant et il est autant aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est par la présence du Saint-Esprit et surtout par l'assurance du salut qu'il nous a acquis par le sacrifice de son Fils. C'est ça qui est important. Alors, mais aujourd'hui, on se dit, la colonne, ben, ça n'a plus lieu d'être. Les signes surnaturels, comme on les voit dans la Bible, ça n'a plus lieu d'être non plus. Les apparitions non plus. Jésus a tout accompli. Pourquoi? Alors, on se dit, tiens, si on avait comme ça une manifestation, ça pourrait nous aider un petit peu dans les moments difficiles. Alors, ça reste à prouver. Parce que souvent, on voit que dans la Bible, malgré toutes ces apparitions, malgré ces signes, malgré ces prodiges, eh ben, le peuple n'était pas forcément plus fidèle. On l'a vu avec le veau d'or. Et on le voit aussi dans le ministère de Jésus, quand il fait des miracles, il fait des prodiges. C'est pas pour ça que le peuple se convertit et que même plus tard, ils diront crucifie-nous. Je dirais que la seule chose qui est importante, c'est la parole de Dieu qui œuvre dans les cœurs. Et donc, Jésus a dit que plus tard, ce seront les œuvres que nous accomplirons en son nom qui guidera l'Église et qui avertira aussi les non-croyants. Et nous savons que seul le Saint-Esprit convainc de péché l'homme que Dieu, il le guidera vers la repentance. Alors, dans le Nouveau Testament, il est dit que Jésus nous donnera des signes et des prodiges pour nous guider. Mais Jésus parle souvent des œuvres que nous accomplirons. Alors bien sûr, cela n'exclut pas les miracles et la guérison. Mais c'est surtout ce que nous faisons. Ce sont ces œuvres qui nous servent de signes pour nous guider jusqu'à l'avènement du Christ, hein, jusqu'à que Jésus revienne chercher son Église. C'est Jésus lui-même qui dit « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Alors cette colonne de feu et de nuée, c'est un repère, car elle représente une réalité spirituelle, mais ce n'est pas elle qui va vous donner la foi. Mais pourtant, Dieu a choisi de se montrer. Et il le fait d'une manière très spectaculaire, hein, parce que si vous imaginez cette colonne qui devait faire plusieurs centaines de mètres de haut, c'est que Dieu avait vraiment envie que ça soit vu et que ça guide le peuple. Alors moi, je me dis quand même que s'il a fait ça, c'est parce qu'il y avait un très grand peuple et qu'il fallait vraiment marquer le coup. Hein, il faut quand même savoir que Israël a vécu presque 430 ans en Égypte, et il n'est pas dit qu'il n'y a aucune trace d'un culte ou d'un lieu saint en Égypte. Je ne sais pas quelle religion ils avaient, mais en tout cas, ils n'avaient pas la religion, ils ne pratiquaient certainement pas la foi d'Abraham, quoi, hein. Donc, si Dieu a maintenu cette colonne et qu'il a fait tous ses prodiges, c'est aussi pour qu'à chaque génération, on se rappelle que c'est Dieu qui conduit le peuple, c'est lui qui le fait sortir d'Égypte. Alors, ces signes et ces prodiges sont écrits dans la Bible. Elles doivent rester dans la Bible. Ces prodiges donnent des enseignements, et ce sont ces enseignements qui, eux, doivent sortir de la Bible et rentrer dans nos vies. Ce n'est pas la colonne qui nous guide aujourd'hui, mais ce sont les paroles qui sortent de la colonne de cette nuée. Alors, un des points, c'est aussi que Dieu s'est révélé au peuple, s'est révélé à Moïse dans la colonne. Et je vous lis le texte dans Exode, et vous verrez, il est assez particulier, Exode 34, verset 29. Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant les deux tables de témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnée. Il craignait de s'approcher de lui. Alors Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne du Sinaï. Alors première chose, les signes qui guident le peuple, ce n'est pas la peau de Moïse qui rayonne, ni de tout ce qui s'est passé sur le Sinaï. Si on avait lu le passage précédent, il est dit qu'au moment où Moïse est allé au Sinaï, il y avait des tremblements de terre, il y avait le feu, tout était embrasé. Ça devait être une des manifestations extraordinaires. Mais ce qui était important, c'était ce qui était écrit sur les deux tables, c'est-à-dire les 10 commandements qui marquaient et qui vont marquer toute l'humanité jusqu'à nos jours. Et je pense qu'à chaque fois que Moïse parlait avec Dieu, Dieu a dû lui dicter toutes les prescriptions du Pentateuque, c'est-à-dire dans le Lévitique et le Deutéronome. C'est quand même une forme de communication assez particulière. Hein. On reste saisi par toutes ces manifestations, mais on ne sait pas qu'en même temps, ben, Dieu parlait et donnait des choses très précises et dictait des choses qui aujourd'hui forment le texte biblique. Alors, il y a aussi un autre exemple comme ça dans la Bible où on voit Élie quand il est dans la grotte et il attend Dieu dans le vent. Mais il n'est pas dans le vent. Il attend Dieu dans le tremblement de terre et dans le feu. Et il s'agit bien d'une manifestation de Dieu, mais pas de Dieu. Dieu est tout simplement dans le murmure. On lit cet épisode dans le premier livre des Rois, au chapitre 18 et au verset 11 et 13. Et c'est à ce moment-là que Dieu parle à Élie comme Dieu parlait aussi à Moïse. Alors Moïse, lui, va redire ses paroles, ne redit pas ses propres paroles, mais bien sûr, il dit les paroles de Dieu. Et ces paroles, qu'est-ce que c'est ? Ben, ce sont des ordres, ce sont des prescriptions, ce sont des lois. Il ne s'agit pas ni de psaumes, ni de poèmes, ni de prophéties, ni de récits, ni de paraboles, ni de louanges. C'est en obéissant à la loi divine que vont venir après les louanges et les poèmes. Mais là, à ce moment-là où Dieu se révèle à Moïse, au moment où la nuée est là dans le tabernacle, on est vraiment dans le cœur, je dirais, dans le cœur de Dieu. Hein. On est vraiment dans un environnement, dans une intensité, dans un lieu qui est trois fois saint. Et là, nous sommes dans les choses sérieuses. Et je me dis que parfois aussi, dans notre Église, on peut avoir ce genre, je dirais, de dialogue, ces moments intenses où dans l'Église locale, aujourd'hui, Dieu nous parle. Dieu nous parle de façon précise. Hein, parce que quand vous regardez ce que Moïse disait au peuple, c'était des choses très précises, très, très, très terre à terre. Et dans notre Église locale, ben, il y a des moments où il y a des grandes décisions qui sont à prendre. Ben, ça se fait lors des assemblées générales, ou peut-être lors de cérémonies, des baptêmes, des mariages. Tout ça pour vous dire que la parole prophétique, c'est une parole qui donne la ligne à suivre pour l'Église locale. Alors pour nous aujourd'hui, bien, il s'agit de construire et de consolider notre Église. Et ça se fait par la parole qui est enseignée, par la prière, par la Sainte Cène, tout ça c'est important, par la prédication, les études bibliques et aussi la communion fraternelle. Alors, n'attendons pas des prodiges ou des apparitions, comme cela peut parfois être attesté dans certaines communautés. Ça n'exclut pas pour autant qu'il y ait des miracles dans notre Église, ou même des guérisons, même des prophéties, mais il faut que s'il y a une parole prophétique, il faut toujours qu'elle soit, si vous voulez, illustrée par un texte biblique. Et je dirais que le véritable miracle, le vrai prodige, c'est dans une église, c'est quand chacun de nous prend conscience de tout ce qu'il doit faire au quotidien et tous les sacrifices qu'il doit concéder pour être au service de l'église locale, plutôt que de rester chez lui tranquille. Et à ce moment-là, nos yeux s'ouvrent. Dieu nous donne à chaque fois les compétences qu'il faut. Vous savez, il y a un ou deux passages au moment où Dieu donne des compétences et un savoir et une habileté à certaines personnes pour construire le temple. J'ai plus les passages en tête, je les avais notés, pour construire le tabernacle et aussi pour construire le temple. Et il donne des choses très précises, des ouvriers qui savent travailler avec des véritables techniciens, des véritables artistes. Mais pour tout ça, pour notre Église, je me dis, s'il y a des signes, il faut des supports, il faut des choses concrètes, il faut des personnes, il faut des services, il faut que les tâches soient écrites et définies par l'Église, et le tout doit être rédiger sur des feuilles de service ou une liste de responsables. C'est ce qu'on est en train de faire. Et ça, ce sont des signes que Dieu nous donne pour guider l'Église. Alors, le fait aussi de créer un annuaire. Alors, ça vous paraît peut-être un petit peu prosaïque, un peu terre à terre, mais comme je vous le disais précédemment, quand Dieu parle et donne des instructions dans le Deutéronome et dans le Lévitique, et même dans le livre des Nombres, vous verrez que c'est plus que terre à terre, c'est hyper précis, hein, c'est vraiment au cordeau. Et donc, ce sont ces choses qui sont les signes et les œuvres de Dieu au même titre que cette colonne de feu, toute proportion gardée. Alors, ce sont les paroles de Dieu transmises à Moïse qui vont guider définitivement le peuple et lui donner toutes les lois. Alors, pour nous aujourd'hui, ce sont les... Oui, c'est cela. Aujourd'hui, cette colonne de feu et de nuée, c'est le Saint-Esprit qui inspire l'Église par la Bible. La colonne, c'est l'Esprit de Dieu. Le tabernacle qui est présent, c'est l'Église, et plus particulièrement l'Église locale. Et la Bible, ce sont les paroles que Dieu transmet à Moïse. Alors, dans le Nouveau Testament, c'est vrai qu'il n'y a pas autant d'apparitions. Seulement, on en voit une ou deux lorsque Jésus se fait baptiser, lorsque Jésus est dans la transfiguration et au moment où il y a l'ascension. Peut-être un des rares signes que l'on voit, c'est au moment de la Pentecôte, quand il y a ces petites flammes qui descendent et qui marquent la venue du Saint-Esprit et qui permet à l'Église d'être envoyée pour la mission. Et c'est cela qui nous guide jusqu'au jour où Jésus viendra nous rechercher, viendra chercher son Église sur les nuées. Alors, un autre fait important, c'est que la colonne de feu et de nuée est visible de tous les peuples. Ça, c'est un des aspects. C'est pas uniquement Israël, elle n'était pas uniquement réservée à Israël, mais les gens autour devaient certainement voir cette nuée. Et c'est pour montrer aussi que nous, en tant qu'Église, nous devons nous occuper des membres, de chacun de ceux qui constituent notre Église, mais on a aussi quelque chose à faire avec les non-croyants. Mais attention, il y a quelque chose qui est quand même précis. Quand on regarde un petit peu comment la colonne se déplace, on ne part pas dans tous les sens. Hein. La colonne guidait le peuple avec prudence dans une seule et même direction, c'était la terre promise. Et ce qui est important, c'est que cette colonne et cette nuée évitaient que chacun parte dans son coin. C'est pour cela que l'Église doit aussi réfléchir sur des repères visibles pour qu'on reste groupé, que l'on arrive à travailler ensemble. Et c'est pour ces raisons que la colonne se retrouve chez nous sous forme de mots d'ordre où chaque volontaire, chaque personne qui sert dans l'Église sait ce qu'il a à faire. Ce qui veut dire que toute révélation divine pour guider notre vie passe par l'Église, par l'Écriture et surtout par la mise à l'épreuve du Saint-Esprit. Donc si quelqu'un a une vision ou une prophétie pour notre Église et une parole venue de Dieu, elle ne peut s'inscrire en faux par rapport à notre confession de foi, par rapport à notre base de doctrine et surtout par rapport à notre organisation. Alors le dernier point, c'est la nuée protège le peuple. Alors, si Dieu a mis d'un côté la nuée, à un moment, il est dit que cette nuée protégeait le peuple des Égyptiens. Ça veut dire que les Égyptiens ne pouvaient pas voir le peuple d'Israël. Et là, bien sûr, ça nous ramène aussi qu'en tant qu'Église, nous avons à combattre contre les puissances démoniaques. L'apôtre Paul le dit souvent, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre ces puissances démoniaques, c'est-à-dire ces créatures célestes. Et là, on sait qu'autour de nous, il y a un monde invisible qui est en lutte et dont nous devons aussi nous armer. Dieu nous donne les armes spirituelles pour cela. Mais il y a quelque chose d'encore plus subtil. Il est dit dans Éphésiens 2, qu'autrefois, on marchait selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alors, ces puissances de l'air ne sont pas forcément une force diabolique. Il peut s'agir de l'esprit de ce siècle. Hein, ça revient de temps à autre dans les expressions de Paul. Alors, qu'est-ce que c'est que ces puissances de l'air? c'est toutes ces idéologies qui sont anti-Dieu, anti-créationnelles. Ce sont des idées qui circulent comme ça, qui luttent contre l'autorité divine, qui luttent contre l'inspiration divine de l'écriture, des idéologies qui luttent contre la différenciation sexuelle. En résumé, tout ce qui fait diversion au message de repentance et au message de la croix et de la résurrection. Donc la colonne de feu du Saint-Esprit nous demande de lutter contre toutes ces formes de diversion. Et la colonne nous rappelle la gravité du péché qui règne. Quand on voit la dimension presque cosmique de la nuée, je dirais qu'elle est proportionnelle aux insinuations diaboliques qui nous environnent. Donc voilà, ça donne un peu une dimension de ce qui nous entoure. Sachez que Paul parle souvent donc des armes spirituelles, hein, comme je vous l'ai annoncé, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu pour renverser des forteresses. Donc, vous voyez, on est quand même armé pour s'attaquer à du loup. Hein. Donc, pour conclure, je dirais que aujourd'hui, quelles leçons à tirer de cette colonne de feu, cette image, cette apparition qui est dans l'Ancien Testament? Alors, il y a plein de choses à tirer, mais bon, je résume. Pour moi, aujourd'hui, je prends cette colonne de feu et de nuée comme un enseignement sur l'engagement missionnaire de notre Église. C'est surtout de veiller à ne pas céder à la facilité d'une théologie qui refuserait, par exemple, l'étude, l'approfondissement de l'Écriture au profit d'expériences spirituelles un peu compulsives, sous prétexte d'inspiration prophétique. Quand vous regardez le texte, on voit une colonne qui est droite, une colonne qui est réglée sur des horaires précis. Elle divague pas, cette colonne. Hein. Elle tient son cahier de charge avec précision. Quand la colonne bouge, le peuple bouge. Quand la colonne s'arrête, le peuple s'arrête et campe. Et surtout, elle obéit à ce que Moïse dit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui? Tout simplement, de faire ce que Dieu me demande avec respect et conviction. Je dois tout simplement avoir, je dirais, une forme d'éducation civique de l'Église. Donc, que chacun de nous s'examine et s'encourage. C'est vrai qu'on a vraiment besoin de se tenir l'écoute dans cette période un peu anxiogène. C'est aussi profiter de ces rencontres, de ces petits groupes, de quartiers, de toutes ces réunions, de tout ce que je dirais concrètement, de tout ce que la vie d'Église organise. Et pour conclure, je lirai un texte où il est parlé dans Actes 3, où il est dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Mais le texte qui me parle le plus, c'est la suite « Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » J'aime cette expression de rafraîchissement. Elle n'apparaît pas souvent dans l'Écriture, mais de se dire « Tiens, on a besoin comme ça quelque chose qui nous redonne de l'énergie et qui l'envoie de la part du Seigneur et qui l'envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Alors, aujourd'hui, repartons encouragés et remotivés pour que Dieu nous aide à avancer et que Dieu vous bénisse. Amen.